Et le thème que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est donc la question du combat de la foi. Parce que la foi a certains aspects qui relèvent vraiment du combat spirituel. C'est particulièrement clair lorsqu'il y a des épreuves qui surviennent dans nos vies ou dans la vie des gens autour de nous. Et ces épreuves peuvent être l'occasion de tentation, en fait, l'occasion de chute. Le scandale, comme dit Jésus dans l'Évangile. Et Jésus a prévenu ses disciples, par exemple, de sa passion toute proche. On voit ça plusieurs fois dans l'Évangile selon saint Jean. Je vous le dis maintenant, avant que cela n'arrive, pour qu'au moment où cela arrivera, vous croyiez. Parce que précisément quand ça arrive, la difficulté c'est de ne plus croire. Et c'est ce qu'on peut voir dans notre vie quelquefois ou dans la vie des gens qui nous entourent, c'est que l'épreuve la plus forte est aussi source de, au fond, d'entrée dans l'athéisme quelque part. C'est pour ça que l'épreuve, c'est le lieu de vérification de la foi, de passage de la foi au tamis finalement. Et seul le combat de la prière peut nous donner toute la force dont nous avons besoin. Vous savez que le mot combat et le mot agonie sont les mêmes, puisque le verbe grec combattre, c'est agonizomai, agonir. Donc, quand on dit entrer en agonie, ça veut dire entrer dans son dernier combat. Et ce combat qui est difficile réalise à petit feu la mise à mort du vieil homme qui sommeille en chacun de nous. C'est en ce sens-là que l'épreuve devient le lieu de la vérification de la foi à travers le combat. Il y a un mot évidemment qui sort tout de suite dans la bouche de Jésus à ce sujet, c'est le mot prier, l'injonction prier. On le voit dans le récit de sa prière à Gethsémani, avant son arrestation, où Jésus exhorte ses apôtres en disant « Priez pour ne pas entrer dans la tentation ». Ce qui veut dire donc que la prière, c'est l'arme principale pour remporter la victoire dans l'épreuve, dans le combat que l'épreuve met en place dans nos vies. Jésus, au moment de Gethsémani, est saisi par le vertige de sa passion toute proche. Il est comme écrasé par le poids du péché des hommes qu'il doit engloutir dans sa mort en croix. Il lui faut se livrer volontairement à cette œuvre de rédemption que le Père lui a donnée à accomplir. Et la tentation, probablement, qu'il éprouve à ce moment-là, c'est la tentation de fuite hors de cette réalité effrayante, pour se préserver lui-même. Et on voit que Jésus s'agenouille, prie. Dans l'évangile de Matthieu, on voit même que Jésus est agité, il fait des allers et retours entre l'endroit où il prie et puis les disciples par trois fois. Et il ne se relèvera pas avant d'être une nouvelle fois entré dans l'obéissance au Père. Et dans saint Jean, il a cette parole, il lui vient le prince de ce monde, sur moi il n'a aucun pouvoir, mais il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que je fais comme le Père m'a commandé. C'est important cette parole, sur moi il n'a aucun pouvoir, ce qui veut dire que ce que le démon peut accomplir n'est que n'est qu'une victoire, n'a qu'un aspect de victoire, mais que de l'intérieur, il n'a pas pouvoir sur Jésus. Jésus se livre à la mort, mais Jésus demeure victorieux. Donc Jésus va prier pour se livrer, pour aller jusqu'à l'extrême de l'amour, dans les circonstances telles qu'elles se présentent. C'est donc bien aussi notre problème à nous, lorsque nous risquons d'éviter Nous voulons bien nous livrer, mais en gardant la haute main sur le don à faire. Or, il s'agit d'accepter la réalité telle qu'elle se présente à nous. Nous ne l'avons pas choisie, nous ne choisissons pas les moyens non plus. Et pour arriver à cette obéissance au réel, il faut vraiment être en état de prière. Et c'est dans la prière que l'Esprit Saint, qui est l'amour, se communique à notre âme. C'est seulement par amour qu'on peut avancer sur le chemin de la mort à soi-même. C'est vrai qu'à certains moments, on peut y être contraint de force, mais même dans ce cas, il faudra bien, un jour ou l'autre, dire le oui de l'acceptation pour être dans l'amour et donc dans la paix. Donc Jésus prie, il prie et il prie encore, il présente sa tentation et demande l'obéissance. « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Il présente sa tentation, c'est important à regarder cela. Nous n'avons pas à avoir honte de nos tentations, elles sont normales. Donc veillons à ne pas nous y laisser enfermer, mais au contraire, à nous en ouvrir à Dieu, et quelquefois à nous en ouvrir à nos frères aussi. Dans ses règles sur le discernement, saint Ignace de Loyola, au niveau de la 13e règle, dit ceci, « Quand l'ennemi de la nature humaine introduit dans l'âme juste ses astuces et ses insinuations, il veut et il désire qu'elles soient reçues et gardées dans le secret. Mais quand on les découvre à un bon confesseur ou à une autre personne spirituelle qui connaît ses tromperies et sa perversité, il en est très dépité, car il conclut qu'il ne pourra venir à bout de son entreprise perverse parce que son découverte, ses tromperies manifestent. Donc un partage, un temps de prière avec une autre personne peuvent être quelquefois, et même souvent, le seul moyen pour échapper à l'emprise obsédante de la tentation. Cet acte d'humilité porte son fruit de victoire. En effet, qui peut prétendre à la victoire sans l'humiliation de s'avouer pauvre et faible, comme on l'entendait encore à l'instant sous la plume de saint Paul. Jésus dit à ses disciples à Gethsémani, « L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Et le récit de Matthieu nous montre Jésus qui fait des allées et venues entre le lieu le plus éloigné où il prie le Père et le lieu où se trouvent les disciples auprès de qui il cherche en vain quelque réconfort. Dans la prière du Notre Père, Jésus nous fait demander « Ne nous soumets pas à la tentation », traduction du grec qui serait mieux rendue de cette façon, « Fais que nous n'entrions pas dans la tentation » ou encore « Garde-nous de consentir à la tentation ». Et c'est la même demande qu'à Gethsémani. La tentation n'est pas le péché. Le combat consiste à refuser d'entrer à l'intérieur de la tentation. Et ce combat s'exerce dans la prière. Et il suppose trois choses par lesquelles nous allons terminer. La veille, la résistance et la persévérance. La veille, l'exhortation est tout à fait claire aussi dans la bouche de Jésus. Les évangélistes Matthieu et Marc retranscrivent la parole de Jésus aux disciples à Gethsémani. « Veillez et priez ». Dans saint Luc, on l'a vu tout à l'heure, c'est simplement prier, mais dans Marc et Matthieu, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Il n'y a pas de possibilité de prière sans veille. Si nous voulons prier sans que cela nous gêne de trop, nous serons toujours amenés à prier rapidement à cause des activités ou à cause du sommeil. Or, le temps de la prière se conquiert d'un côté et de l'autre. Laisser des activités légitimes et raccourcir son temps de sommeil et ainsi pouvoir entrer vraiment dans une prière plus longue où nous laissons le Saint-Esprit nous saisir en profondeur. Veillez. Cette façon de faire est un acte de foi en la puissance de l'amour de Dieu. C'est une façon d'exercer une foi active. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit par la prière, alors les tentations auront évidemment beaucoup moins de prise sur nous. Et celui qui se refuse à veiller pour prier risque de ne pas avoir la victoire dans son combat. Voici une des dernières recommandations de saint Paul à la fin de la première lettre aux Corinthiens. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, soyez forts. La solidité et la fermeté de la foi supposent la veille en permanence. Comme il est dit dans le Cantique des Cantiques, « Je dors, mais mon cœur veille ». Donc la veille, deuxièmement la résistance, un mot qu'on trouve aussi sous la plume de Paul. La foi, c'est un combat de fond. Il va écrire à Timothée, « Combat le bon combat de la foi, conquiert la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et en vue de laquelle tu as fait ta belle profession de foi. » Comme quoi on trouve un peu tout dans l'Écriture, puisque l'Écriture insiste pour dire que la vie éternelle est un don gratuit, mais ici saint Paul dit, voilà, il faut aussi la conquérir par le bon combat de la foi. La veille et la prière nous donnent la résistance dans notre vie de foi et notre combat spirituel. Et Pierre écrit aux premiers chrétiens en but à la persécution, dans sa première lettre, « Soyez sobres, veillez. Votre partie adverse, le diable, comme un lion rugissant, rôde cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi. » Voilà, vous avez les deux mots. Résister et puis veiller. Et le chrétien doit apprendre à résister à l'ennemi par la foi. Paul va employer encore d'autres mots qui vont dans le même sens. Lorsqu'il est enchaîné à un soldat romain, qui est évidemment dans sa tenue de soldat, il va décrire aux Éphésiens, en regardant le soldat, la panoplie de celui qui entre dans le combat spirituel. Et parmi les armes qu'il cite à employer habituellement, Paul mentionne le bouclier de la foi. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Un simple acte de foi en Jésus, acte de foi en la parole de Dieu. On lisait tout à l'heure, celui qui regarde une femme et qui la désire a déjà commis l'adultère dans son cœur, eh bien, un simple acte de foi en la parole de Jésus, par exemple, « Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu », le fait de la citer, de la dire, ça peut être un sursaut avec ce bouclier de foi pour repousser la tentation. La foi mise en action est une protection contre les tentations et les coups adverses. Une cuirasse, comme va dire encore Paul, revêtons la cuirasse de la foi. Cuirasse de la foi, bouclier de la foi. Cuirasse de la foi et de la charité. Et Jean, lui aussi, va résumer tout cela en une phrase lapidaire. Telle est la victoire qui a triomphé du monde, de l'esprit du monde, notre foi. Enfin, un troisième mot, persévérer. L'auteur de la lettre aux Hébreux, chapitre 10, « Ne perdez pas votre assurance, elle obtient une grande récompense. C'est d'endurance, en effet, que vous avez besoin pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation de la promesse. » Endurance. Et encore, Paul aux Colossiens, « Il faut seulement que vous persévériez dans la foi, affermie sur des bases solides. » Endurance, persévérance, et Paul dira, « J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Il y a encore d'autres textes qu'on aurait pu citer, notamment dans l'Apocalypse, sur la constance et la foi des saints. Voilà quelques réflexions donc sur la foi comme combat par la prière, avec les trois attitudes de veille, de résistance et de persévérance.